Radio Okapi.
Oh, Okapi.
Présenté par Belinda Bossouma, voici le sommaire. L'avenir de l'enfance pourrait basculer en 2050 à travers le monde, à moins que des mesures urgentes ne soient prises par les autorités compétentes pour préserver les droits des enfants. L'alerte est de l'UNICEF dans son nouveau rapport publié aujourd'hui 20 novembre, à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance. Nord Kivu, au moins 4 blessés par balle et des biens emportés par des bandits armés. Bilan des incidents sécuritaires enregistrés la nuit dernière à Goma. Le rapporteur de la société civile de Niragongo déplore ces autres cas de criminalité et appelle les autorités à plus d'action. Et puis, l'invité de ce midi, Maître Henri Wemboloa, président de l'ONG Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux. Il nous parle notamment des perspectives des états généraux de la justice qui viennent de se tenir à Kinshasa. Madame, Messieurs, bonjour. Un avenir difficile attend les enfants en 2050 dans un monde transformé par les crises climatiques extrêmes, les mouvements démographiques et les disparités technologiques. Cette alerte est de l'UNICEF dans son nouveau rapport phare publié aujourd'hui 20 novembre à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance. L'avenir de l'enfance pourrait basculer à moins que des mesures urgentes ne soient prises pour préserver les droits de l'enfant dans un monde en pleine mutation. En RDC, où le thème de cette année portera sur les enfants acteurs dans la lutte contre le changement climatique et la dégradation de l'environnement, le bien-être des enfants est affecté par des inondations et des pics de chaleur. Blaise Makassi nous peint la situation en RDC.
Ce rapport de l'UNICEF intitulé « La situation des enfants dans le monde, l'avenir dans un monde en mutation » examine la manière dont trois forces puissantes observées à l'échelle mondiale affecteront la vie des enfants d'ici aux années 2050 et au-delà. Ces grandes tendances, à savoir les changements démographiques, la crise climatique et environnementale et les technologies d'avant-garde fournissent des indications clés sur les défis et les possibilités qui attendent les enfants dans le monde de demain. En République démocratique du Congo, l'UNICEF note que l'environnement est un enjeu majeur pour le futur des enfants. Ces dernières années, notent les communiqués de l'UNICEF, plusieurs villes de la RDC ont connu des problèmes d'inondation et des pics de chaleur. Ces situations ont affecté les enfants et ont eu un impact sur leur bien-être. La création d'un dialogue constructif entre les deux générations, les adultes décideurs d'aujourd'hui et les enfants futurs décideurs, permettra de donner la parole aux enfants et aux jeunes comme acteurs dans la lutte contre le changement climatique.
Direction le Nord Kivu, je vous l'ai dit dans les titres, au moins 4 blessés par balle ainsi que des biens emportés par des bandits armés. C'est le bilan des incidents sécuritaires enregistrés la nuit de mardi à ce mercredi dans les quartiers périphériques de Goma. La société civile de Niragongo parle d'une incursion des bandits armés au domicile du chef de village Karambi dans le groupement Rusayu, mais habitant à Ndosho. Deux de ses enfants ont été blessés et sont pris en charge dans une structure sanitaire de la place. Un autre cas est celui d'un jeune homme blessé aussi par balles au village Bugamba, groupement de Mouja. En outre, au quartier Ndosho, avenue Mouaboura, c'est un jeune homme, revendeur des crédits, qui a été blessé hier vers 18h locale alors qu'il rentrait chez lui. Le rapporteur de la société civile de Niragongo déplore ces autres cas de criminalité et appelle les autorités à plus d'action. Thierry Gassisiro, joint par Sifamaguru.
Que nous dénonçons ces cas d'insécurité qui a élu domicile dans le territoire de Niragongo et dans la ville de Goma, où il ne peut se passer une nuit sans qu'il y ait des cas de cambriolage, de fusillades et de vols armés. Il est donc temps que les autorités puissent multiplier la vigilance, surtout accroître des mesures sécuritaires, car on ne peut pas accepter que les chefs coutumiers de la chefferie de Bukumu soient à la cible de bandits armés et qui opèrent à toute tranquillité et qui malheureusement ne sont pas inquiétés. Il est donc temps que la population puisse joindre ses efforts à celles des autorités pour qu'ensemble nous puissions lutter contre cette insécurité grandissante dans les territoires de Niragongo et dans la ville de Goma.
Rappelons que la population des quartiers environnants, la ville de Goma, vit dans la psychose ces derniers temps à la suite des crépitements des balles nocturnes enregistrées quotidiennement. Restons au Nord Kivu. Les commissions consultatives de règlement des conflits coutumiers de la province viennent de totaliser 6 ans depuis leur création. Les chefs coutumiers et autres acteurs impliqués dans la résolution des conflits coutumiers ont clôturé mardi à Goma 2 jours de travaux d'évaluation de ces structures. C'est à l'initiative de la section des affaires civiles de la MONUSCO, le compte-rendu de Bernardin Nyangui.
Lors de la création des différents comités de CCRC au niveau de groupes Moche, Free et Provence en 2018, la MONUSCO, ses partenaires, avait cartographié au moins 147 conflits de pouvoir coutumier à travers la province. Les animateurs de CCRC seraient justes de voir que, grâce à cet accompagnement de la MONUSCO, au moins 81 conflits ont pu être réglés à ce jour. C'est comme en témoigne ici le président de la CCRC, Jeffrey de Baoundé dans le Massissi, chez qui au moins 8 conflits ont été résolus. Mwami Bauma Bitsibu, chef de groupement de Kamuronza.
Dans la chefferie de Baoundé, on est parvenu quand même à résoudre 8 conflits. Les 8 ont été clôturés complètement. Ceux qui ne sont pas allés en appel, on doit exécuter leur sentence. Mais pour ceux qui sont allés en appel, ils doivent attendre. Il y a le CCRCC au niveau des chefferies et des secteurs, au niveau provincial, et il y a la CCRCC au niveau national.
Rappelons que c'est pour trouver la solution aux conflits de pouvoir coutumier qui ne font que se multiplier au Nord Kivu que le gouvernement congolais avait mis en place en 2016 les commissions provinciales d'arbitrage des conflits coutumiers. Et c'est depuis 2018 que ces structures, avec l'implication de la MONUSCO, ont été rebaptisées en commissions consultatives de règlement de conflits coutumiers. C'est CRCC en sigle. Goma, Bernard Nyangui, Radio Okapi.
Nord Kivu toujours, le commissaire supérieur Michel Mbala, commandant de la police nationale congolaise du territoire de Beni, s'est dit satisfait du soutien apporté par la MONUSCO dans le cadre de la protection des civils. Il s'est exprimé ainsi mardi devant une délégation du bureau conjoint de l'ONU pour les droits de l'homme venue évaluer la situation des droits de l'homme dans la région. Pour améliorer les résultats sur le terrain, le commissaire supérieur Mbala recommande une augmentation des visites sur place afin d'identifier les difficultés auxquelles font face les forces de l'ordre et de leur apporter des solutions concrètes. Le commissaire supérieur Michel Mbala s'exprime au micro d'André Kitenge.
Dans ce premier temps, c'est un sentiment de joie, puisque j'ai toujours dit une grenouille qui s'isole mais stérile. C'est pour dire ceci, que des chocs des idées jaillit la lumière. Personne n'a le monopole de la science, les amis ont une certaine expérience et nous devons profiter de cette expérience. C'est à leur visite que nous posons les problèmes qui sont avec nous sur le terrain. Il y a beaucoup de problèmes qui se passent ici, ils sont seulement Kinshasa, ils entendent, il y a 6 semaines. C'est bien qu'ils soient arrivés sur place et palper du doigt certaines réalités. Et aujourd'hui, je suis vraiment très content, les amis étaient là, ils partent avec la réalité du terrain. Et je souhaiterais que tout ce que nous avons comme difficulté, je souhaiterais que leur visite soit beaucoup plus pragmatique que dogmatique. Ce que j'attends d'eux, c'est qu'ils transmettent à leur hiérarchie tout ce que nous venons de poser comme doléances. Et c'est à hiérarchie, en connivence avec l'hiérarchie de notre pays, vont nous trouver peut-être quelques solutions sur les problèmes qui sont ici sur le terrain. Mais ce que nous privilégions dans un premier temps, la sécurité, rien que la sécurité. Nous doter de tous les moyens comment nous pouvons protéger les personnes et leurs biens. Puis c'est ça notre mission. C'est ce que nous attendons d'eux, que nous ayons tous les moyens nécessaires pour que nous soyons capables de protéger les personnes et leurs biens.
Entre-temps, en Ituri, l'auditorat militaire a ouvert depuis lundi des enquêtes sur les crimes contre l'humanité commis en avril 2021 par le groupe armé Mouvement d'autodéfense populaire de l'Ituri, MAPI, vers Chari. Nous sommes à une dizaine de kilomètres de Bunia. Une centaine de victimes et témoins sont auditionnés par cette juridiction en vue d'élucider les faits et poursuivre les auteurs, précise des sources judiciaires. Ces enquêtes se déroulent grâce à l'appui de la MONUSCO pour lutter contre l'impunité des graves violations des droits de l'homme. Isaac Rémo nous en parle.
Ces graves violations des droits de l'homme ont été commises en avril 2021 par des présumés miliciens de MAPI dans la localité de Licha vers Chari dans le groupement Kabarole dans les territoires d'Irumu. Selon l'auditorat militaire garnison de l'Ituri, les populations de cette entité ont été la cible d'attaque de cette milice au cours de laquelle plusieurs personnes ont été tuées ou déportées par des enseignants et des biens pillés et détruits. 125 victimes, témoins et des autorités locales seront auditionnées, précise des sources judiciaires. L'objectif de ces enquêtes est de recueillir les maximums d'éléments en vue d'élucider ces faits, d'identifier les auteurs et les victimes et procéder à des arrestations les cas échéants. Ces enquêtes se déroulent avec l'appui technique, logistique et financier de la section d'appui à la justice de la MONUSCO et d'autres partenaires. C'est dans le cadre du renforcement des capacités de la justice militaire en vue de lutter contre l'impunité des crimes graves. Cette mission prendra fin le vendredi prochain. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Province du Haut-Katanga, l'Assemblée épiscopale de la province ecclésiastique de Lubumbashi dénonce l'enlèvement par des militaires d'un séminariste au grand séminaire de Tchamalalé à Lubumbashi. Même s'il a été relâché, l'archevêque métropolitain de Lubumbashi et président de cette assemblée épiscopale a, dans un communiqué, exigé des poursuites à l'encontre des auteurs et autres commanditaires de cet acte pour que justice soit faite. Pour Mgr Fulgence Muteba, ces événements sont liés à l'occupation de leur concession par des tiers, sans titre ni droit. Écoutez à ce sujet M. l'abbé Georges Kisimba, secrétaire des évêques de la province ecclésiastique de Lubumbashi. Il est au micro de Jean Gandou.
Nous sommes très indignés par l'incident qui est survenu le lundi 18 au grand séminaire du Tchamalalé, où des militaires sont entrés dans l'enceinte du séminaire et ils ont enlevé un séminariste qu'ils ont amené. Comme au moment de l'enlever, d'autres sont venus au secours. Ils ont tiré deux coups de feu qui ont dispersé les autres. Et puis ils sont partis avec le séminariste qui n'a été libéré que très tard dans la soirée, vers 20h. Ces événements qui surviennent au grand séminaire sont liés à la spoliation de ce terrain par des gens, parmi lesquels il y a beaucoup de protection des militaires qui protègent ceux qui vont spolier et ainsi ils volent le terrain du séminaire. C'est pourquoi nous condamnons cet enlèvement, même si le séminaire a été relâché, et nous pensons que ce sera la dernière fois que des agents de l'ordre vont se permettre d'entrer dans l'enceinte du grand séminaire pour commettre des actes de barbarie. Nous demandons aussi que justice soit faite le plus tôt possible pour que de tels incidents ne surviennent plus.
Direction le Kassai oriental. Rebondissement dans l'affaire de démolition des maisons sur les avenues Dodoma et Zaïre au quartier de la Plaine dans la commune de Bipemba en Mbujimayi. Le ministre d'État, ministre de la Justice, vient d'instruire le procureur général d'engager des poursuites judiciaires contre les membres de la commission stratégique et opérationnelle de l'indemnisation suite aux allégations des détournements évoqués par les victimes de démolition ainsi que certaines sources impliquées dans cette affaire. C'est un reportage d'Esther Dalafina rendu ici par François Kadima.
Dans sa correspondance du 8 novembre en cours, dont une copie réservée au président de la République, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, instruit le procureur général, près la cour d'appel du Kassai oriental, d'engager des poursuites judiciaires contre les membres de la commission stratégique et opérationnelle chargée d'indemnisation de parcelles expropriées pour cause d'utilité publique. Le ministre de la Justice signale par ailleurs que, d'après les informations en sa possession, la somme de 300 millions de dollars américains allouée par la Banque mondiale pour l'indemnisation de plus de 800 propriétaires de parcelles expropriées n'a pas été remise à plusieurs bénéficiaires, ce qui apparaît une possibilité de détournement de ces fonds. Rappelons que le propriétaire de maisons démolies n'ont cessé de déplorer les fonds transférés dans leur compte qui, selon eux, n'ont pas représenté la valeur marchande de leur maison. Actuellement, plusieurs voix se sont déjà fait entendre pour démontrer que l'espace kérelé n'appartient pas à la régie des voies aériennes RVA, d'où les négociations devraient être engagées dans les normes pour une expropriation digne, affirment les avocats des victimes. Contacter le procureur général prévoit, sur instruction du ministre de la Justice, de mener des interpellations pour avoir la lumière dans cette affaire.
Merci à vous François et bon séjour à Kinshasa.
Merci beaucoup.
Kinshasa, par où passent les services de voirie et drainage pour ne pas voir ce qu'est devenu le tronçon compris entre Arré-Landou, rond-point Moulard, sur l'avenue de Libération, ex 24 novembre, en passant par la prison centrale de Makala. Cette question, les riverains et usagers de cette voie se la posent avec amertume chaque jour. Ils disent regretter l'incapacité des services habilités à aménager cette bretelle. Billy Van Lutumba a visité cette contrée. Voici son reportage.
Où l'on pouvait voir et rouler sur de l'asphalte, on ne sait y voir aujourd'hui que boue mixée au détritus des légumes et autres déchets laissés délibérément par les marchands et passants. Le tout formant des bourbiers noirâtres au grand désarroi des tous, surtout en cette période pluvieuse.
La dégradation de cette route date de longtemps. Jusque-là, on n'a vu aucun lancement des travaux. Quand tu es ici pour aller au grand marché, tu vas devoir aller tourner jusqu'à la commune des Boum. Les bus et les motos évitent maintenant cette tronçon. L'état de
cette route sont pires pour Napoléka.
Environ 2 mois sont passés. Une lueur d'espoir naquit pour d'éventuels travaux, mais malheureusement, rien de concret jusqu'à présent.
Attends la réhabilitation effective de la route 24, la route de la libération. Les autorités sont venues jeter des sables et caillasses. Jusqu'alors, pas d'amélioration. Les caniveaux sont bouchés. La bande piéton est occupée par les mamans maraîchères. La route est impraticable.
Parmi les conséquences de ce manque de réaménagement de ce tronçon, les motocyclistes communément appelés Wewa évitent carrément d'y rouler et prennent un chemin détourné passant par la commune de Bumbu, rendant le trajet plus long et plus coûteux pour les passagers. Nos tentatives de joindre les services provinciaux en charge d'aménagement de la voirie se poursuivent encore.
Actualité internationale. Nous sommes au Soudan. 40 personnes sont mortes par balle lors d'une attaque des paramilitaires des forces de soutien rapide FSR sur un village dans l'état d'Al-Jazira, dans le centre du pays, ravagé par plus d'un an et demi de guerre. Confirmation ce mercredi d'un médecin. Selon des témoins du village de Ouad Oshab, les FSR ont commencé à attaquer mardi soir. L'attaque a repris ce mercredi matin, a assuré un témoin, ajoutant que les paramilitaires s'est livrés à des pillages.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons Maître Henri Wemboloa, président de l'ONG Alliance pour l'Universalité des Droits Fondamentaux. Il nous parle des perspectives des États généraux de la justice, travaux qui se sont clôturés samedi dernier à Kinshasa, ainsi que de la nécessité d'appliquer les résolutions issues de ces assises afin de redorer la justice congolaise. Maître Henri Wemboloa est avec Marcel Ngombombala.
Maître Henri Wemboloa Otchodi, bonjour.
Bonjour, monsieur Marcel.
Vous êtes président de l'ONG Alliance pour l'Universalité des Droits Fondamentaux, AIDF. En sigle, vous avez pris part aux États généraux de la justice qui se sont clôturés le samedi dernier avec 359 résolutions. Alors, qu'en est-il des perspectives d'avenir de ces États généraux de la justice?
Oui, il appartient à son Excellence, monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice, et son Excellence le président de la République avec autres parties prenantes, pour prendre des mesures d'application de ces recommandations. Et d'aucun ne cesse de dire aujourd'hui que ces recommandations ne doivent pas rester lettre morte. Il faudrait qu'elles soient appliquées parce qu'on en a connu en 2015, il y a eu plusieurs recommandations et lorsqu'on essaie d'évaluer, c'est moins de 1% des recommandations qui étaient appliquées. Nous souhaitons que cette fois-ci, les recommandations soient appliquées.
Parmi les réformes majeures de ces états généraux de la justice, il y a le remplacement du Conseil supérieur de la magistrature par les conseils supérieurs de la justice, mais aussi la suppression du visa des supérieurs hiérarchiques pour le prononcé des jugements, ce qui n'a pas été accepté par certains magistrats qui estiment qu'il faut en tout cas s'en remettre à l'arbitrage du magistrat suprême.
Oui, effectivement, il y a eu beaucoup de recommandations. Il y a certaines de ces recommandations qui n'ont pas plu tout le monde. Et nous pensons, par rapport, par exemple, à la question du visa, qu'il faut respecter quand même la loi et la Constitution qui veulent que le juge soit indépendant. Néanmoins, les juges supérieurs, ils ont le pouvoir de sanctionner le magistrat s'il rend de mauvaises décisions. Sinon, on pourrait croire que les magistrats supérieurs ont des intérêts personnels, privés, ils veulent instrumentaliser leurs collaborateurs qui sont de surcroît, qui sont indépendants. Mais d'autre part, le Conseil supérieur de la magistrature, qu'il soit ouvert à d'autres personnes comme le président de la République, comme le ministre de la justice. Ça s'est fait dans quelques états en Afrique, peut-être même dans le monde. Mais au fond, il se pose un sérieux problème et il faudrait que l'on joue à l'équilibre des pouvoirs. Et quand il y a cet équilibre de pouvoirs, même en étant dedans ou en étant en dehors, n'est-ce pas, du conseil, le président peut prendre des décisions appropriées. Même le ministre de la justice aujourd'hui qui a le droit d'injonction sur les magistrats pour déclencher des poursuites judiciaires ou même pour demander que certaines décisions soient prise dans le sens de la bonne administration de la justice. Il a aussi l'inspectorat général des services judiciaires qui est composé des magistrats. Et donc moi je pense qu'à ce niveau-là, et ça peut faire même parmi certaines priorités, l'inspectorat général des services judiciaires et les mesures d'application de la loi sur le régime pénitentiaire, s'il peut jouer sur ce levier, je crois que de manière un peu plus rapide, on peut voir des solutions appropriées. Parce que il se pose un problème. Aujourd'hui, si l'on doit amener le Conseil supérieur de la magistrature immédiatement dans, à être modifié, il faut aussi toucher à la Constitution. Et ça prend du temps. Et même les moyens financiers nécessaires pour implantation des juridictions, construction de ceci, de cela à travers le pays, ce sont autant de problèmes sérieux qui sont à charge de la République. Or, aujourd'hui, pour le budget 2025, il y a déjà une dotation qui est prévue. Et cette dotation n'a pas prévu toutes les recommandations des États généraux, n'a pas prévu la modification de la Constitution, peut-être même des histoires. Donc voilà pourquoi nous disons qu'aujourd'hui, comme priorité, il faudrait prendre certaines mesures qui peuvent faire changer les choses directement, avec les magistrats eux-mêmes, de par la conscience renouvelée, et aussi avec des actions de terrain de toute personne qui a des dénonciations, qui a de suivi des cas, et ainsi de suite. Je crois que ces états généraux ont été quelque chose d'intéressant pour la population.
Voilà ceux qui estiment que toute résolution prise ne peut avoir effet sur le terrain que si simplement on arrivait à améliorer les conditions du travail de magistrats et surtout s'il y a de la volonté politique.
Oui, la volonté politique exige et les moyens à donner aux magistrats, c'est aussi une priorité. Et les recrutements des magistrats, parce que sur l'étendue de la République, il y a des coins où il n'y a pas de magistrats, je crois que ça fait partie des priorités. Et si l'on tient compte de tous ces éléments, on peut le plus vite possible faire améliorer la situation. Et l'on dira, coup de chapeau, les états généraux ont été tenus et nous sommes en train de voir, de palper le fruit des états généraux sur terrain.
Maître Henri Wembo Loa Otudi, je vous dis merci.
Merci beaucoup, monsieur. C'est Marcel Ngombo.
Le président de l'ONG Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux répondait aux questions de Marcel Ngombombala. Par ici prend fin ce journal coordonné par Élisée Chikota-Chivueta sous la supervision de Martin Sebujangwe. Jean-Claude Siala Mwanamake Ngonswalu était à la mise en onde. Merci d'avoir été des nôtres.